Les interviews du SEL, le service d'entraide et de liaison, selfrance.org.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle sur les actualités du SEL et nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Djekadoum Dilta qui nous vient du Tchad et avec lequel le SEL est en relation de partenariat. Monsieur le docteur Djekadoum Dilta, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter, dire qui vous êtes, ce que vous faites, et peut-être aussi pourquoi vous êtes devenu docteur?
D'accord, merci beaucoup pour m'avoir accordé donc cette opportunité de m'exprimer. Je suis Djekadoum Dilta, médecin parce que il y a une histoire derrière. Ma maman était tellement souffrante quand j'étais à l'école secondaire. Et ça nous a donné beaucoup de soucis dans la maison, dans la famille. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment un hôpital qui pouvait la soigner régulièrement. Et puis, à partir de ce moment, je me suis dit, mais il faut envisager une carrière qui pourrait aider pas seulement ma maman, mais toutes les autres mamans qui vont souffrir. Donc, j'avais déjà, quand j'étais en première au lycée, l'idée d'être médecin. Et puis voilà, le Seigneur a permis que je puisse arriver à être médecin, mais le chemin n'était pas tout droit. J'avais d'abord commencé les maths physique, chimie, donc à l'université du Tchad, où j'ai fini ma première année en maths physique, chimie, parce qu'à l'époque, c'était difficile d'avoir une bourse pour faire la médecine. Et dès que j'ai fini ma première année, bien, l'Église a dit, voilà, ils ont une bourse pour la médecine. Et puis j'ai dit, d'accord, je suis engagé, fais les dossiers. Mais en même temps, je continue mes études universitaires en N'Djamena. Et la deuxième année, j'étais rentré dans la filière technique pour être ingénieur en génie mécanique. Parce que l'inscription à l'extérieur traînait à l'époque. Il n'y avait pas la faculté de médecine au Tchad. 2 ans, il n'y avait pas l'inscription. J'étais en 3e année. Et en ce moment-là, l'Église dit, bon, même si on n'a pas l'inscription, allez-y et puis débrouillez-vous. C'était comme ça que je suis allé au Bénin. Et voilà, j'ai fini mes études médicales. C'est ce que j'ai pu faire et voilà, je vous remercie de m'avoir associé, bien sûr, dans les activités de SEL.
Alors, si je ne me trompe pas, vous travaillez dans un établissement qui est un établissement chrétien.
Absolument, je suis donc médecin-chef de l'hôpital évangélique de Koyom, qui est une structure de l'Église. D'abord, son histoire, c'est que c'était une pharmacie villageoise qui a été mise là en place par les missionnaires qui sont venus de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Parmi ces missionnaires, il y avait une sage-femme donc, qui donnait des médicaments pour soigner le paludisme. Et puis après, cette pharmacie villageoise est devenue dispensaire, centre médical en 1984 par le tout premier médecin qui était venu de la Suisse. Et puis bien après, ça a évolué pour devenir donc hôpital de district reconnu par le ministère de la Santé publique par un arrêté ministériel.
Est-ce que vous diriez que c'est une vocation de travailler dans un hôpital chrétien ou dans un dispensaire chrétien plutôt que dans un hôpital public ou dans un centre de santé publique?
C'est une vocation dans la mesure où l'Église, avec sa manière de s'organiser, de gérer, et si l'intéressé n'a pas la vocation, ne peut pas tenir. C'est pour cette raison, l'Église met souvent plus l'accent sur l'appel pour le service dans l'œuvre médicale.
Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tenir si on n'a pas la vocation?
Ben, pourquoi? Parce que d'abord, il y a beaucoup de défis à relever. Premièrement, l'Église, en tant que structure confessionnelle, n'a pas assez de ressources comparée à l'État. Donc, du point de vue ressources, Elle est limitée. Ça veut dire que s'engager avec l'Église, c'est accepter, se sacrifier, c'est travailler dans des conditions difficiles. Ça, c'est d'abord un. Deuxième défi qui fait appel à la vocation, c'est que les structures de l'Église sont pas dans les grandes villes. Parce que l'Église vise la population démunie qui n'ont pas accès aux soins et construit généralement ses hôpitaux, ses centres de santé en milieu rural. Et accepter vivre en milieu rural dans des conditions difficiles, eh bien, il faut avoir la vocation. Sinon, certains ont essayé, après, ils sont partis. C'est pour cette raison que l'élément vocation est très important.
Qu'est-ce que vous diriez qui seraient les grands défis ou les grandes problématiques en matière de santé dans la région où se trouve l'hôpital où vous travaillez, et puis peut-être aussi après, dans un deuxième temps, plus largement au Tchad.
Je raisonne en termes de médecin de santé publique, parce que c'est aussi l'une de mes spécialités, même si j'ai voulu beaucoup plus en chirurgie. Et en termes de santé publique, en milieu rural, le premier défi, c'est l'accès aux soins de la communauté. C'est un accès d'abord géographique. Vous avez au Tchad, il n'y a pas de route. Deuxième défi, c'est l'accès aussi financier. L'Église, en s'implantant dans le milieu rural, vise effectivement cette population pauvre. Et étant pauvre, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de ressources pour soigner correctement. C'est pour cette raison que la vocation et la prise en charge sociale que l'Église mène sur le terrain à sa première place. Ça veut dire soigner ceux qui sont pauvres. Et sans avoir les ressources, vous voyez un peu les défis, qui est d'un côté de développer l'œuvre de l'Église et de l'autre côté de ne pas laisser les pauvres souffrir.
Vous soignez quoi principalement dans l'hôpital ?
Il y a ce qu'on appelle les maladies infectieuses qui occupent la première place, notamment le paludisme. Après le paludisme, nous avons les infections respiratoires qui occupent la deuxième place, mais il faut signaler que le paludisme ne vient pas seul, s'accompagne avec l'anémie. Et cette anémie s'installe généralement chez les enfants sur un fond de malnutrition, de même comme chez les femmes enceintes. Et les deux associés, anémie et paludisme, en fait, préoccupent toutes les structures, pas seulement de l'Église, mais aussi de l'État en général, et en milieu rural généralement. Parce que c'est là où la plupart des femmes enceintes ne vont pas régulièrement avoir les soins, et même les enfants aussi pareil. Puisque les parents passent non pas parce qu'ils sont démunis financièrement, mais aussi ne comprennent pas ce mécanisme et traînent souvent et demandent les soins avec retard. Et c'est ça qui constitue vraiment, pas seulement un défi, mais un grand problème de santé dans nos structures.
Ça fait plusieurs années maintenant que vous exercez. La question que j'aurais envie de vous poser, c'est au fil des années, comment est-ce que vous avez vu la situation évoluer ? Qu'est-ce qui va mieux ? Qu'est-ce qui s'est peut-être dégradé? Ou alors, est-ce que vous avez l'impression que ça ne change pas? Comment est-ce que vous voyez la trajectoire en matière de santé au Tchad ou peut-être dans la région où vous êtes depuis que vous avez commencé à exercer?
Ça, c'est une très bonne question parce que en tant que santé publique, il faut aussi jeter un regard en arrière et voir comment les choses évoluent. Les choses évoluent de manière positive, que ça soit à l'hôpital où je travaille ou que ça soit sur le plan national. Je dis ça parce que sur le plan national, le nombre des hôpitaux est en train d'augmenter. Sur le plan national, nous n'avons pas une faculté de médecine avant et maintenant on en a qui produit chaque année des médecins. Donc en termes de couverture sanitaire, il y a une amélioration qui est là. En termes de mortalité aussi, parce que les indicateurs montent, malgré qu'on n'a pas encore des bons indicateurs sanitaires, comparé à 10 ans, il y a un progrès pour lequel nous n'allons pas occulter ni cacher, malgré qu'il reste encore beaucoup à faire, il faut quand même le dire. Donc, ce qui est désolant ou ce qu'il faut quand même en tenir compte, c'est vrai que l'amélioration n'est pas si rapide, mais c'est quand même progressive. Comparé à l'amélioration par exemple, du développement du pays, qui est quasi, bon, je veux dire, presque nul, c'est quand même un progrès qui est là et qu'il faut vraiment reconnaître et encourager.
Comment les choses se sont-elles passées au Tchad en ce qui concerne la pandémie de coronavirus?
C'était très difficile parce que c'était en mars que ça s'était arrivé, le premier cas, le 29 mars 2020. Et le pays, en réalité, ne s'est pas préparé. Il y a eu une impréparation totale. Et puis de deux, le système sanitaire n'était pas prêt à faire face à une pandémie de cette allure, l'envergure. Tout simplement parce que les équipements qu'il faut pour prendre en charge ces cas sont quasiment nuls. Il n'y a pas dans les hôpitaux des unités de prise en charge des cas urgents. Ce qui fait que c'était assez difficile pour gérer ça au début. L'État se cherchait parce qu'il faut arrêter ceci, il faut prendre des mesures. Quand les cas commencent à arriver, bien, il faut comprendre que c'est cela en Djamena Et là encore, c'est seulement dans 3 hôpitaux. Donc, c'était pas facile du point de vue prise en charge. Maintenant, du point de vue social aussi, parce qu'il y avait les transports publics qui ont été arrêtés et puis les regroupements interdits, ça a été très difficile, mais on a supporté, je dirais, pendant peut-être un mois. Et le cri de ceux qui sont confinés est tel que le gouvernement est obligé de lever les mesures progressivement. Ça, c'est dans des grandes villes, mais il faudrait comprendre, dans les villages, c'est très difficile de faire respecter ces mesures-là. Dans les villes, il y a des contrôles et il y a aussi un regroupement assez important des intellectuels, ainsi de suite, qui comprennent le mécanisme de transmission de la maladie. Mais dans le milieu rural, il a fallu, n'est-ce pas, assez de temps d'abord avant d'aller les sensibiliser et leur donner des informations. Mais il faudrait comprendre que c'est quand même une expérience, inédite qu'on a vécue.
Alors, dans le partenariat qu'il y a entre votre structure et le SEL, sauf erreur de ma part, ce sont des bourses d'études en médecine et puis ça a été aussi des projets d'équipements médicaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous dire en quoi ces projets sont importants pour améliorer les conditions de santé des personnes et des populations en situation de pauvreté?
D'accord. Merci pour la bourse. En tout cas, c'est un projet qui va aider d'ici peu nos structures de santé parce que nous avons 6 hôpitaux confessionnels, donc évangéliques, et les 6 hôpitaux n'ont pas tous de médecins. Alors, il faut former pour les intégrer là. Ça, c'est le premier point, l'aspect positif que je peux dire en termes de bourse de formation. Mais il y a aussi la bourse pour former les sages-femmes, où Cell France appuie, et ces sages-femmes, il faut le dire, on les trouve pas en milieu rural. La plupart sont concentrées dans les grandes villes, et même N'Djamena a déjà plus de 70 sages-femmes du Tchad sont concentrées en N'Djamena. Or, les femmes qui accouchent ont besoin de la compétence, et nous savons que le Tchad est parmi les pays au sud du Sahara dont le taux de la mortalité maternelle est très élevé. Tout simplement parce que certains cas qu'on peut régler facilement dans un centre de santé avec une sage-femme n'a pas pu être réglé parce qu'il n'y a pas cette compétence-là. Donc, la formation des sages-femmes, en plus de la médecine générale, nous aide et va beaucoup aider les structures de santé de l'Église au Tchad. Pour ce qui est de l'équipement aussi, c'est pareil, parce que l'hôpital de Koyom, que je dirige, a eu un appareil de radiographie numérique de la part de Cell France, et il faut le dire, dans la région, nous sommes les seuls à avoir. Et la qualité des clichés que nous produisons avec cet appareil, ça c'est pas à dire, c'est impeccable. Et ces instruments permettent d'améliorer la prise en charge, parce que quand c'est très bien fait, ça facilite de poser le diagnostic, donc l'identification de la maladie et par la suite aussi le bon traitement qu'il faut instituer. Donc, l'équipement vient compléter la formation et en réalité, pour améliorer une structure de santé ou bien le système de santé, il faut les ressources humaines et il faut les ressources matérielles adéquates pour faire un bon travail et puis améliorer la santé de la communauté.
Bien. Monsieur le docteur Djegadoum Dilta, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir davantage sur le travail du SEL et de ses partenaires dans le domaine de la santé ou dans les autres domaines d'action des projets de développement, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.selfrance.org. Nous avons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.